Je ne ferai plus une introduction parce que Père Noël Panazak, il va entrer dans le sujet, vous allez voir. Donc je vous dis, on voudrait faire un panorama sur l'histoire du christianisme. Et comme je vous ai dit, un panorama qui peut nous expliquer un peu notre rôle dans ce monde et surtout ici en France, en Occident. Donc j'invite Père Noël à commencer et je m'ajoute en 3 minutes. À côté de lui. Père Noël, bienvenue dans notre paroisse, tout d'abord. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Donc, je voudrais que Père Noël vienne plusieurs fois dans la paroisse.
Merci. Bon semestre. Viens, mon père. Viens. Alors, d'abord, je veux dire, je suis désolé d'avoir à vous parler après 2 heures de liturgie. Je me suis dit, ils sont crevés, ils en ont marre, ils ont envie de manger. Mais c'est comme ça chez les Romains, hein, pur et dur. Moi, je me disais, ils vont bien manger, ils vont boire, après on est tranquille. Bon, non. Mais c'est vrai, non, je suis embêté de vous parler au bout de tant d'efforts liturgiques. Merci, Marianne, tu me l'allumes. Parce qu'en plus, il n'y a pas de lumière. Je vous en supplie. Demandez à nos frères catholiques romains qui vous permettent de mettre un peu de lumière. On n'y voit rien, même à l'autel. L'Église et les Églises, catholicité et orthodoxie. Qu'est-ce que c'est au fond d'être orthodoxe? Est-ce que c'est simplement être né orthodoxe dans un pays orthodoxe, dans une famille orthodoxe? Ici en Occident, on est catholique. On est né d'une famille catholique. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais est-ce que c'est uniquement parce que c'est les circonstances? Est-ce que c'est être oriental, de culture orientale? Moultsomesque. Je voulais qu'elle soit toute petite pour que je vois, mais ce n'est pas grave. Non, non, c'est symbolique, c'est beau. Non, ce n'est pas grave. On privilégie le symbolisme sacré dans l'orthodoxie, c'est bien. Plutôt que la pratique occidentale. Est-ce que c'est tout ça, l'orthodoxe? Mais s'il en était ainsi, l'Église serait éternellement divisée. Si vraiment on est en Orient orthodoxe, on est en Occident catholique, bon ben tout est foutu. On est divisé jusqu'à la fin des temps, jusqu'au retour de Christ en gloire. Il faut quand même qu'on ait un peu conscience de la valeur spirituelle des choses. Et peut-être sortir un peu de nos pantoufles. Et pourtant, pendant 1000 ans, l'Église a été... Oh, ce qui est génial. Un bon diacre, toi. Pendant 1000 ans, l'Église a été ce que les historiens appellent indivise. Non divisée. 1000 ans d'Église, une. Ah, tiens, c'est intéressant. Ça mériterait peut-être quand même qu'on s'y intéresse. Tous les chrétiens confessaient la foi, la vraie foi, la foi orthodoxe, celle de cette concile œcuménique, en Orient comme en Occident, pendant 1000 ans. Jusqu'au schisme 1054. Ah tiens, c'est intéressant. Peut-être c'est intéressant de regarder un peu ce qu'il y a derrière le voile. Le rite byzantin est très cher à l'orthodoxie. Le rite byzantin, c'est le truc. C'est-à-dire, la plupart du temps, en Occident, les gens orthodoxes pensent que le rite byzantin, c'est l'unité de l'Église. Mais le rite byzantin, il est pratiqué par des millions de catholiques romains dans le monde. Il n'est pas un critère d'orthodoxie. Et pendant le premier millénaire, les orthodoxes en Occident célébraient en latin dans beaucoup de rites. Le rite romain, très local, le rite des Gaules, sur toute l'Europe, le rite africain qu'on connaît très mal. Il y avait beaucoup, beaucoup de rites. Ah, mon chat, Ah, sinon, je ne peux plus parler, mon chaton. Ah, moi, je suis vachement fragile. Hein. Le rite ne définit pas la foi. Le rite n'est pas le signe de l'unité. Ça, c'est absolument faux. L'Église indivise connaissait une multitude de rites. Alors, si l'orthodoxie n'est pas une question de rite, s'il n'est pas une question de culture, c'est qu'elle est une question de foi. Ah, alors les gens, on n'est pas du tout dans le même sujet. Alors, ce que je voudrais aborder avec vous, en m'excusant de la longueur, c'est d'abord 2 choses. En fonction de ce que le Père m'avait dit. Je voudrais faire un petit survol de 2000 ans d'histoire d'Église. Alors, ce n'est pas facile, mais ça ne prendra pas trop longtemps, ne vous inquiétez pas quand même. Hein. Ça, c'est important pour savoir, au fond, pourquoi on en est arrivé là et pourquoi on est dans cette situation. Et le deuxième point, c'est quels sont les fondements de la foi orthodoxe? Qu'est-ce qui nous différencie de nos frères catholiques romains et des réformés? C'est quand même important de savoir. J'ai vu parfois en Grèce des orthodoxes qui ne savaient rien du contenu de la foi. J'ai dit, merde, flûte. Mince. Moi, je suis d'une orthodoxe, je suis occidentale, ils ne savent rien de la foi orthodoxe. Vous voyez, on a aussi des décadences d'orthodoxie, hein, on ne fait pas tout bien. Bon, il y a aussi des gens qui sont par habitude et par culture, hélas. Et puis enfin, c'est une toute petite conclusion, au fond, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Voilà, Occident et orthodoxie, qu'est-ce qu'on fait ensemble? C'est-à-dire, regardons le troisième millénaire, avant que le Christ ne revienne en gloire. Un petit survol de 2000 ans sur l'Église. Alors évidemment, c'est très schématisé, il y a plein de nuances à apporter que je n'ai pas le temps. L'Église apparaît avec la descente du Saint-Esprit sur les 12 apôtres, choisis par le Christ à la Pentecôte. Le Christ est le fondateur de l'Église, parce qu'il montre et révèle Dieu. Et c'est l'Esprit Saint qui fonde l'Église. Parce que les apôtres n'intègrent les paroles du Christ qu'à partir du moment où le Saint-Esprit est descendu sur eux. Donc l'Église naît à la Pentecôte dans les années 30-33. Voilà. La doctrine du Christ, être chrétien, c'est recevoir la doctrine du Christ. Et vivre selon Christ. C'est ça, être chrétien. La doctrine du Christ va se répandre dans tout l'Empire romain grâce aux apôtres, les 12, et à saint Paul, le 13e apôtre. Vous avez vu comme Dieu n'est pas coincé par nos bêtises et nos médiocrités. Les 12 sont très trouillards. Tant le Christ leur dit « Partez ! Allez dans le monde entier, ne restez pas à Jérusalem !» Ils ont peur. Alors, crac, cet esprit prend saint Paul. Il dit « Vas-y, je te jette chez le peuple. » Dieu n'est pas contraint par nos bêtises, nos médiocrités, nos erreurs. Il est libre. Et ce christianisme se répond dans l'Empire romain au-delà des frontières. Je veux rappeler une chose qui n'est rarement mentionnée dans les livres. L'Empire romain est une prophétie du royaume de Dieu. L'Empire romain était un empire gigantesque, le plus grand, le plus beau, le plus puissant de tous les empires de l'histoire humaine. Et il avait cette particularité qu'il était un cheval sur 3 continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique, et qu'il réunissait les 3 peuples bibliques, Sem, Cham, Japheth. Intéressant quand même de voir un seul empire et un seul empereur. Et des empereurs qui vont se faire appeler Dieu. Ce sera la cause des persécutions contre les chrétiens. Mais c'est une prophétie, parce que cette unique humanité, c'est le Christ qui va la rétablir. L'Empire romain, c'est une prophétie, l'Église. Ça ne lui plaît pas, hein. Mais mon petit chéri, si tu pleures, je ne vais pas pouvoir parler. Simultanément, donc ils vont partout, surtout Paul. Paul, c'est la grenade du Saint-Esprit, le feu d'amour. Vous savez, il dit, j'ai peur. Le Saint-Esprit lui dit, pars ! Vas-y, je suis avec toi. Formidable. Quel mec ! Simultanément, le culte chrétien se développe, en se distinguant progressivement du culte synagogal. Je vais en redire un mot tout à l'heure, je ne le développe pas. Les 3 premiers siècles de l'Église, persécution. La période des martyrs, jusqu'en 313 en Occident, 324 en Orient, quand la mort du Seigneur. C'est le moment où être chrétien, c'est donner sa vie pour Dieu. Vous avez entendu l'évangile du jour. À cette époque, il fallait mourir pour le Christ. C'était terrible. Mais c'était beau aussi, c'est grâce à eux que nous existons. C'est grâce aux martyrs que l'Église existe. C'est les martyrs. À partir du 4e siècle, début du 4e siècle, l'Église est libre. Et à l'extrême fin du 4e siècle, l'Empire romain devient chrétien, sous Théodose. Juste avant sa disparition. Hein, il va disparaître au 5e siècle en Occident, au 15e siècle en Orient. Mais là, je dis juste avant sa disparition, en tant qu'empire unique. Là, il va se couper en deux. Un empire romain d'Occident qui va disparaître et d'Orient qui va prospérer encore pendant 1000 ans. Du 4e, alors, Saint-Cernin de Toulouse, martyr. C'est grâce à ces gens-là qu'on est chrétien. Allez sur les lieux, respirez le lieu et priez-le. Il est là, il est l'évêque de la ville. N'oubliez pas les orthodoxes d'Orient, il est l'évêque de la ville, n'oubliez pas. Du 4e au 9e siècle, c'est la période des grandes controverses dogmatiques, qui sont surtout christologiques, parce que le problème, évidemment, c'est que le Christ soit Dieu, c'est des problèmes très difficiles. 4e, 9e siècle, les sept conciles ecuméniques, quand il y a un grave problème dogmatique, l'Église, qui est de nature conciliaire, a réuni un concile qu'on appelle ecuménique, c'est un concile universel. Du premier concile Nicée 325 au 7e, 2e concile de Nicée 785, mais l'hérésie iconoclaste va durer jusqu'au milieu du 9e siècle, jusqu'à 843. Ça, c'est le moment où il faut lutter pour la foi. Face aux hérésies, il a fallu préciser, non pas la foi, mais la formulation de la foi. Parce que tous les conciles ont dit, on a toujours cru ça. C'est pas nouveau. C'est le Christ qui a donné la vérité. Mais par contre, on précise la formulation. Quel est le contenu des mots que nous prononçons? On va jusqu'au 9e siècle. Et cette foi, c'est ce que nous appelons la foi orthodoxe. C'est la foi de l'Église individuelle. Tout le monde confesse cette foi. Il a fallu lutter, alors je ne détaille pas, je n'ai pas le temps, l'arianisme, contre l'arianisme, le nestorianisme, le monophysisme, l'iconoclasme. Et c'est dans cette période qu'on a rédigé le credo. Premier, deuxième concile œcuménique, Nicée-Constantinople, ce que nous avons chanté ce matin, ce que nous avons dit, c'est le credo élaboré par nos pères. C'est une petite synthèse de la foi, qui était destinée d'abord aux catéchumènes, on leur dit quelle est ta foi, mais ils récitaient le credo. Durant cette période, 4e, 9e siècle, la vie liturgique s'est épanouie, s'est développée partout. Il faut bien voir que la liturgie existait, mais on était quand même cachés. Il y avait une créativité liturgique. Les gens qui se sont penchés sur le rite des Gaules disent qu'il y a des textes du 2e siècle, donc de l'époque de Saint-Irénée, c'est quand même fantastique. D'ailleurs, Saint-Irénée a dit, j'écris pas très bien en grec parce que non, je parle gaulois. Ah, formidable. Vous avez vu, c'est pas une orthodoxie pantouflarde, un gars comme ça. Il parle gaulois, il parle pas en grec. Les gens qui veulent toujours rester au slavon, au latin, au machin, au truc. Le Christ, il va devant, il n'est pas en arrière. La vie liturgique s'épanouit, le schéma de la liturgie chrétienne, il est universel. Ah bah, faut pas rêver. Il y a un schéma universel et beaucoup de formes liturgiques. La liturgie de la parole qui nous vient directement de l'office synagogal. Hein? On disait la loi et les prophètes, on chantait des psaumes, des alléluia et on commentait. Les rabbis commentaient. C'est la liturgie de la parole en gros. Et puis, les premiers chrétiens ajoutaient ce qu'on appelle la fraction du pain. Donc, ils faisaient d'abord l'office synagogal et après, ils faisaient la fraction du pain. C'est ce qu'on appelle l'Eucharistie. Évidemment, progressivement, il va y avoir une élaboration de formules liturgiques et d'ordo. Au point de départ, les liturgistes sont presque tous d'accord. On a les liturgies qui vont s'élaborer à Jérusalem et Antioche. Antioche, c'est la capitale de la province d'Orient. Pilate, il dépend d'Antioche. Jérusalem dépend d'Antioche. Donc on a l'élément, on va dire, syro-palestinien, qui est au point de départ. On a un témoignage très ancien, de la fin du 4e siècle, c'est des constitutions apostoliques. Les constitutions apostoliques, fin 4e siècle, qui donnent un état de la liturgie au 2e et 3e siècle, probablement surtout au 3e siècle, nous indiquent à peu près le schéma général de la liturgie, dont sont issues les liturgies orientales et occidentales. Avec notamment, il y a une très belle litanie, dans les constitutions apostoliques, on la retrouve dans le rite byzantin, on la retrouve dans le rite de Gaulle. Vous voyez, bon, c'est l'origine de toutes les liturgies. Les liturgies vont évoluer très différemment en Orient et en Occident, avec, on va dire, des philosophies différentes pour aboutir à des rites qui seront très nombreux. Il y avait au moins une cinquantaine de rites dans le premier millénaire. En Orient, le rite qui va prédominer, c'est le rite byzantin. Le rite byzantin, il faut quand même savoir qu'à l'origine, c'est du syro-palestinien et du cappadocien avec saint Basile, adopté par Constantinople, la grande église. Le rite byzantin, c'est le rite de Sainte-Sophie de Constantinople, la grande église, vous voyez, enfin construite par Justinien au 6e siècle. Vous voyez, donc ça prend quand même un peu de temps. Mais il y a d'autres rites en Orient. Il y a la liturgie de Saint-Jacques de Jérusalem, la liturgie de Saint-Marc en Alexandrie. Il y a beaucoup d'autres rites, ce n'est pas uniquement le rite byzantin. En Occident, il y a une multitude de rites. Le plus important est le rite des Gaules, qui couvre à peu près toute l'Europe, avec des familles différentes. Le rite gaulois, proprement dit, le rite hispanique, les rites celtes, le rite ambrosien, qui couvre toute l'Italie du Nord. Le rite romain existe, le rite romain, c'est le rite du centre de la botte italienne. C'est le rite le plus local et le plus circonscrit. Alors, les rites se développent. Alors, Tous les rites anciens possèdent ce que nous appelons les orthodoxes, les piclases. Vous avez vu, après que le prêtre eut prononcé les paroles de l'institution, il offre au Père le pain et le vin, qui symbolisent la nature humaine du Christ, il supplie de nous donner la nature divine. Il supplie le Père d'envoyer l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint lui-même consacre les dons à travers la prêtrise du prêtre, si vous voulez. C'est ce que nous appelons l'épiclèse. Tous les rites, sauf un. Les rites romains n'ont pas de véritable épiclèse. Mais, dans la période de l'Église indivise, on considérait que c'était une exception. Vous voyez, on n'était pas étroit d'esprit. Donc, les Romains célébraient leur rite dans un contexte orthodoxe. Personne n'y voyait rien à dire. Mais c'était quand même un rite un peu spécial. Il n'y avait pas d'épiclèse. Toutes les églises, pendant le premier millénaire, utilisent du vrai pain. Je vois, dans les textes anciens où l'on parle du rite à Rome, on appelle ça le fermentum. Non mais, faut pas rêver, c'est du pain. Du vrai pain, du fermentum, que le pape de Rome donnait à tous les responsables des paroisses. Du pain, du vrai pain. Et on utilise, bon, du vin, je n'en parle pas, mais on donne la communion sur les espèces. Tout le monde. L'Église, maintenant, j'ai parlé un peu du rite, s'est développée en se calquant sur la structure administrative et politique de l'Empire romain. Mais il faut quand même se souvenir que l'Église n'a pas pour vocation de dominer le monde. Elle n'est pas une superstructure. Impensable. Ce n'est pas évangélique, ce n'est pas le Christ. L'Église veut changer les hommes de l'intérieur. Elle n'est pas là pour contrer l'État, ni pour dominer l'État, ni pour dire à l'État ce qu'il doit faire. Donc l'Église se calque sur l'Empire romain. C'était très complexe l'Empire romain, parce qu'il était divisé en deux. Il y avait des préfectures du prétoire, des diocèses civils romains qui n'ont pas de rapport avec les diocèses religieux. C'est un monde très complexe. L'élément de base de l'Église, ça sera la province romaine, parce que c'était l'élément le plus vital, on va dire, pour les gens, la province romaine. Il y a énormément d'évêques. Chaque ville, il y a un évêque. Maintenant, c'est ridicule, le nombre d'évêques. C'est complètement grotesque. Il y avait des milliers d'évêques. Il y avait un évêque dans chaque ville. Et il y avait beaucoup de prêtres et beaucoup de clergés. Beaucoup de clergés mineurs. Il y avait une foule de diacres, d'acolytes. C'était très beau, parce qu'au fond, la prêtrise allait jusque vers le peuple. Au fond, l'évêque, mais les prêtres aussi, au fond, avec des guillemets, ils ne faisaient rien. Ils étaient devant le trône de Dieu, et ils pleuraient et ils priaient. J'ai vu les apôtres, quand les gens leur disent « Ouais, les veuves, tout ça, sont négligés, c'est quand même pas juste », ils disent « Choisissez parmi vous ces diacres, on s'en occupe pas, nous. On va leur imposer les mains, ils vont distribuer. » Vous avez vu, c'est formidable. Ils disent « Nous, on doit s'occuper de la prière et de l'évangile. » Superbe! Alors que maintenant, on a plein de hauts fonctionnaires religieux. Mais ils n'étaient pas des hauts fonctionnaires. Ils disaient « Occupez-vous de ce problème. » Ils ne donnent pas de règles. On a vraiment oublié cet esprit. Choisissez parmi vous. On leur a posé les mains. Ah, formidable, on a beaucoup oublié. En Orient comme en Occident, on a beaucoup perdu de ça. L'Église se calque sur l'administration romaine. Il y a un clergé très abondant. Et le mode de vie de l'Église, c'est le concile. Dès 314 en Arles, mais surtout en 325 à Nicée, on a dit deux conciles par an. Dans les provinces, partout. On va se réunir. Les évêques se réunissent, ils réfléchissent, ils parlent, ils décident. On se réunit, c'est la vie conciliaire, conformément au modèle trinitaire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est nous, c'est pas je, c'est nous. Les grandes capitales de l'Empire vont petit à petit se transformer en patriarcats. Mais les patriarcats sont venus, je n'ose pas dire par hasard, mais en fonction des circonstances, parce que la désagrégation de l'Empire romain a amené la formation, la résurgence, par exemple pour l'Égypte, ou la création de nouveaux États. Donc les gens se retrouvaient dans leur modèle culturel et politique. Ça va donner ce que nous appelons les patriarcats, Antioche, Jérusalem, Constantinople, Alexandrie, Rome. Mais ce n'est pas absolu les patriarcats. Ce n'est pas un machin absolu. Ce n'est pas une règle. Le Christ n'a pas donné de règle. Vous avez vu ? Il a dit, je vous délivre la vérité. Le reste, débrouillez-vous. Travaillez. Il n'a pas dit, il faut faire ci, il faut faire ça. Vous avez le Saint-Esprit, ça suffit. Bon. on devait bien prendre de la graine. Alors que lorsqu'il y a un problème grave, ce qu'on appelle une hérésie, ce n'est pas complètement faux, hein. C'est simplement quelqu'un qui choisit, ou un peuple qui choisit un élément dans la vérité, il oublie l'autre. Maintenant, on va dire le Christ, il est homme. Dieu, on ne sait pas. Ou le Christ, il est Dieu. Oh, c'est une erreur. Mais c'est une erreur tragique, parce que ce n'est pas conforme aux pensées divines. Quand il y a une hérésie, on va réunir un concile. Et les conciles sont dits à cette époque, pendant le premier millénaire, œcuméniques. Ils concernent tout l'œcumène. En grec, c'est le monde habité. C'est tout, toute l'humanité. Alors, durant cette période, qu'on appelle la période de l'Église indivise, nous pouvons dire qu'il y a une unité de la foi dans la diversité des rites. Que le mode de vie de l'Église est conciliaire. Chaque Église particulière, qui est appelée Église locale, s'auto-administre. Elle a des usages particuliers, profond un rite particulier, mais elle demeure en communion avec les autres. Elle n'agit pas toute seule. On est chrétien, mais avec les autres. On est évêque, mais avec les autres évêques. Alors, un grand bouleversement arrive avec le schisme de 1054. C'est une horreur qui va casser l'Église en deux morceaux, l'Orient et l'Occident. En fait, bon, ce schisme, il a été préparé deux siècles avant et il ne sera vraiment consommé qu'en 1204, aux actes de Constantinople. Je dis quand même un petit mot, parce que c'est une chose grave. L'évolution de l'Église en Occident a conduit à ce schisme. L'Église romaine parvient à créer un État, l'État pontifical, avec l'appui de la dynastie carolingienne. Il y a un accord de puissance. Les carolingiens sont des usurpateurs, ils ont besoin de la bénédiction de l'Église. Rome craint les Lombards, les rois lombards, qui sont assez persécuteurs. Une association politique, on va dire, entre Rome et les Carolingiens. On crée un État pontifical basé sur un faux, la fausse nation de Constantin, donc basé sur un mensonge. Mais le Christ n'était pas chef d'État. Et le Christ a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. C'était très dangereux d'établir un royaume chrétien. Ce n'est pas évangélique. Bon, et on va le faire. On fait ça au 8e siècle. L'Église de Rome fait imposer les rites romains à l'ensemble de l'Occident. Donc son rite, et aussi la règle bénédictine. Alors, l'Occident était essentiellement rite de Gaulle. Mais il y a une contrepartie, c'est que les empereurs carolingiens imposent à l'Église de Rome un ajout dans le credo, le filioque, de dire que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Mais ce n'est pas évangélique. Quand le Christ dit « Je vous enverrai l'Esprit qui procède du Père », donc c'est un déséquilibre de la théologie trinitaire. Les papes de Rome lutteront très longtemps contre. Léon III de Rome, au 9e siècle, fera graver le credo, symbole de Nicée-Constantinople, en grec et en latin, sur deux plaques d'argent, qui existent toujours, sans le filioque. Les plaques d'argent seront déposées au pied du tombeau des apôtres Pierre et Paul. Et le liber pontificalis romain dit « Il a fait cela pour la défense de la foi orthodoxe ». C'est quand même intéressant. En outre, vers le 9e siècle, d'après les liturgistes catholiques, on adopte en Occident l'usage du pain azim. Le pain azim, c'est le pain des Juifs. Les chrétiens, c'est la nouvelle Pâque. Le levain et le sel sont des symboles du Saint-Esprit et on va priver le peuple du précieux sang, probablement pour des gens pratiques. C'est plus pratique de communion seulement avec le précieux corps. Mais on prive le peuple du sang. Et pourtant, le Christ a dit, buvez-en tous. Ah, intéressant. Et de plus, les papes de Rome vont commencer à lutter contre le mariage des clercs, qui était la règle générale dans l'Église antique, confirmée au premier concile œcuménique. On a discuté au premier concile œcuménique. On a dit, est-ce qu'il faut imposer la continence aux gens qui veulent devenir prêtres, aux évêques? Et il y a un grand spirituel d'Égypte, Saint Paphnus d'Égypte, qui était un homme vierge de toute sa vie. Il avait perdu un œil et un mollet dans la persécution pour le nom du Christ. Et Saint Paphnus d'Égypte, il a dit, ne leur imposez pas un fardeau qu'ils ne pourront pas porter. Et le concile, le premier concile œcuménique a dit, ne changeons rien. Il y aura des clercs mariés, des clercs continents. Voilà. Et voilà. Rome ne garde pas la règle et lutte contre le clergé marié. Le schisme de 1054, qui est d'abord entre Rome et Constantinople, c'est ce qu'on appelle une rupture de communion. On n'est plus en communion, donc on est désunis. La communion, n'oubliez pas, c'est le signe réel de l'unité. On n'est plus en communion. Rupture de communion, essentiellement à cause de filioque, c'était essentiellement pour des raisons théologiques. Ce schisme de 1054 ne sera vraiment consommé qu'avec les croisades et le sacre de Constantinople en 1204. Vous vous rendez compte, un siècle et demi après, c'est une horreur. Le sacre de Constantinople par les croisés, ils ont pissé contre l'autel, piétiné les espèces consacrées et mis une putain nue sur le trône du patriarche. Non, il faut avoir conscience de ça, c'est nos pères, les croisés. C'est une monstruosité. Nous, les Occidentaux, c'est une monstruosité. Là, c'était un mur de haine entre les deux parties de l'Église, l'Orient et l'Occident. À partir de 1204, chacun vit dans sa sphère. Il se moque éperdument des autres. Ah, ça c'est notable. Alors, l'Église occidentale, dominée par Rome, Rome a réussi à dominer toute l'Église occidentale. L'Église des Gaules était très vivante, mais les Gaules souffraient d'une carence administrative. Il n'y a pas d'unité politique des Gaules, donc on n'a jamais eu de patriarche des Gaules. Bon, pas facile de lutter. En Espagne, ils sont beaucoup mieux défendus. Ils ont eu une invasion des arabes musulmans. Ils sont mieux défendus avec les conciles de Tolède. Vous voyez, il n'y a pas d'unité politique. Non, Rome a bénéficié de ce vide. Alors, là, tout va changer en Occident. Ça, c'est absolument le drame. Tout va changer après le schisme. Dès la fin du XIe siècle, on a un pape de Rome qui s'appelle Grégoire VII qui va promulguer des décrets. Ce qu'on appelle les dictatus papae. On pourrait dire que c'est les antres du pape. Dans le cas, il dit que l'évêque de Rome est au-dessus de tous les autres évêques, il est au-dessus des empereurs, au-dessus des rois. Il peut juger tout le monde, il n'est jugé par personne. On n'est plus du tout dans l'esprit de l'Église indivise, donc le dictatus papae de Grégoire VII. Et fin 11e siècle, l'apparition de ce qu'on appelle la théologie scolastique, Anselme de Canterbury, etc. Ça, c'est quelque chose d'absolument terrible. C'est le plus grand drame spirituel de l'histoire humaine. Qu'est-ce que c'est la scolastique? On va être, son expression définitive, c'est le 13e, saint Thomas d'Aquin, qui est entré chez vous, Toulouse. On va introduire le rationalisme dans la théologie, en s'appuyant sur les philosophes païens, Aristote, Platon. On redécouvre, comme on dit dans les livres, la philosophie grecque. Puis on s'appuie sur la philosophie gréco-romaine, païenne. On oublie l'esprit patristique. Les pères de l'Église ne s'appuyaient que sur l'écriture et sur l'expérience spirituelle. Là, on va raisonner in abstracto sur Dieu. Rationaliste, juridique et moral dans la spiritualité, surtout en Seine de Canterbury. C'est-à-dire qu'il y a une règle, il y a un barème de bien et de mal. Il va falloir payer le mal qu'on a fait. Tu as fait ça, tu vas payer. C'est absolument terrible parce que c'est aux antipodes de la spiritualité chrétienne, aux antipodes, parce qu'il ne s'agit pas de payer, mais de se purifier, de se transformer. Un seul a payé, le Christ. Et nous, on doit se transformer, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas tu m'as fait ça, il va falloir que tu payes. Et troisièmement, on va introduire l'esthétisme, le sentiment dans l'art chrétien. L'art iconographique disparaît en Occident au 14e siècle. Si vous regardez tout ce qui est roman, Alain Saint-Sernin, c'est orthodoxe, si vous voulez. Mais l'esthétisme, ce n'est plus orthodoxe. Parce que c'est un point de vue personnel. Pour nous, l'art chrétien, c'est comme l'évangile. Ça confesse la vérité. Ce n'est pas mon point de vue. Et ce n'est pas le beau pour le beau. Parce que seul Dieu est beau. Les orthodoxes disent souvent le beau Dieu. Seul le Christ est beau. La beauté divine. L'Église d'Orient, elle, va se replier sur elle-même. On pourrait presque dire les Églises d'Orient. Elles vont évoluer. Alors, l'Occident va se transformer, conquérir le monde. Croisade, tout ça. Parce que c'est aussi la richesse de l'Occident, d'être conquérante. L'homme occidental est un homme extériorisé, conquérant. Alors, les Églises d'Orient se replient sur elles-mêmes, mais avec encore une très belle période qu'il faut mentionner. On a encore de la vitalité jusqu'à la chute du Constantinople. Et je veux mentionner les conciles palamites, Saint Grégoire Palamas, 14e siècle. Les trois conciles palamites qui ont défini le dogme de la lumière incréée. La lumière du mont Tabor est incréée. Les yeux de l'homme peuvent la voir. L'homme peut être transfiguré. Contre les philosophes, les théologiens catholiques romains d'Italie du Sud. C'est très important, parce qu'on peut dire que c'est l'aboutissement de toute la quête théologique de l'orthodoxie. Et puis, quelque chose qui est cher aux gens d'Orient, c'est le renouveau de l'hésychasme. L'hésychasme qui vient du tout début de l'Église, du monde monastique d'Égypte. Hein. Mais il y a un renouveau de l'hésychasme formidable au XIIIe, XIVe siècle, au Mont Athos et au Mont Sinaï. Ça, c'est quand même très, très important. Alors, les églises d'Orient se retrouvent toutes sous domination arabo-musulmane. En Alexandrie, Antioche, Jérusalem, dès le 7e siècle, hein, dès le début. Constantinople, au 15e siècle, chute de Constantinople, 1453. Seule la jeune église russe est libre, mais elle est quand même sous pression musulmane, avec les Tatars, les Mongols, Tatars, qui sont des musulmans. Alors, c'est aussi l'époque où, en Russie, on va commencer à élever les iconostases. Les iconostases ont toujours existé dans l'Église, mais c'était une séparation symbolique entre la nef, qui représente la terre et l'Église, et le sanctuaire, qui représente le ciel et qui représente le monde à venir. Mais c'était une barrière symbolique. On voyait et on entendait. On va commencer à élever, on va mettre de plus en plus d'icônes, on va tout cacher. Au XVe siècle, les iconostases, telles qu'on les connaît en Orient, voilà. Mais 15e siècle, ça fait 15 siècles quand même depuis une crise, si vous voulez. On cache tout, on a peur. L'Église orthodoxe d'Orient garde la vraie foi, mais l'enterre son talent. Les patriarches de Constantinople ne feront à peu près rien. Ils vont succéder au pape de Rome, premier parmi les égaux, mais ils vont faire quasiment rien. L'Orient n'a eu, l'Orient orthodoxe, aucune vie conciliaire universelle depuis le 6 mai 54, pour le faire quand même. 1000 ans, pas de concile œcuménique, comme si le monde n'avait pas changé. Voilà, on se recroqueville sur soi-même. En Occident, les excès de Rome vont produire l'explosion de la réforme au XVIe siècle. Vraiment, on peut parler d'explosion, c'est une révolution, une révolte, un bouleversement incroyable. Les églises réformées, qui vont lutter contre les excès romains, vont mettre l'accent sur la volonté humaine. La volonté humaine avait été complètement oubliée par les scolastiques. Il y a Dieu, 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 représenté par le clergé, bien sûr. Mais où est l'homme? Les réformés vont dire, et l'homme? Ah! Oui, on avait oublié l'homme. Il n'y a pas de dogme de la synergie au monde catholique romain. On a oublié l'homme. Et les protestants, les réformés vont rejeter la prêtrise et les sacrements parce qu'ils vont voir quelque chose de magique. Ils vont dire, oh là là, qu'est-ce que c'est que tous ces machins-là? Moi, il n'y a pas longtemps, j'étais à une réunion œcuménique dans mon quartier à Paris. Il y avait un pasteur calviniste et un luthérien. Ils ont dit carrément, on parlait du pardon. Ils disent, nous, c'est vrai, on n'a pas la prêtrise. Ils ont dit, on n'a pas la prêtrise. Ils ont rejeté la prêtrise et les sacrements. Ils veulent s'appuyer exclusivement sur la Bible. Alors, c'est vrai que le mouvement de la réforme, au début, il est juste. Mais ils n'ont pas pu retrouver les sources. L'Orient était loin. Loin géographiquement, persécuté et loin culturellement. Donc au fond, les réformés, leur difficulté, c'est que le point de départ est juste, mais ils vont se calquer sur Rome. Vous avez remarqué? Ils vont se calquer sur Rome, ils ne vont pas retirer le fulgurque du credo, ils vont se définir par rapport à Rome et pas par rapport à l'Église indivise. Alors, Rome, elle, face à cette explosion, c'est quand même une explosion incroyable, c'est une révolte avec des guerres, on s'entretue, c'est quelque chose de terrible. Rome ne va pas réellement se réformer, elle va se réformer un peu, si vous voulez, aux marges, mais pas le contenu. Elle ne va pas réformer le contenu. Le Concile de Trente entérine les doctrines romaines. On ne va même pas supprimer les indulgences. Qui sont quand même quelque chose de tout à fait risible, si vous voulez. On ne va pas supprimer les indulgences, ça existe toujours dans la doctrine romaine. Et Rome va continuer dans le même esprit pour aboutir au XIXe siècle au dogme de l'infaillibilité pontificale. Premier concile du Vatican, 1870. C'est pas très très loin de nous, hein. C'est un petit siècle, un gros siècle. Et au fond, vous voyez cette église occidentale du deuxième millénaire qui démarre avec Grégoire VII, qui aboutit au premier concile du Vatican, c'est l'église catholique romaine. C'est l'église catholique romaine. Mais c'est une église du deuxième millénaire, c'est pas l'église du premier millénaire. Et Rome va conserver le titre ancien de catholique parce que c'était l'usage. d'une certaine façon, qui est vidé de son contenu. Je vais y revenir. Tandis que l'Église d'Orient prendront le terme d'orthodoxe. Alors, orthodoxes, elles le sont réellement quant à la foi. Mais en ce qui concerne les rites, les usages canons sont orientales. Il y a une certaine ambiguïté des deux côtés. Les deux termes de catholique et orthodoxe sont en fait, à mon avis, détournés de leur signification première. Rome a conservé le terme de catholique parce qu'il était le terme utilisé le plus pendant le premier millénaire et qui signifiait universel. Catholon en Grèce, c'est selon le tout. Donc chaque partie selon le tout, universel. Et une, elle a gardé parce que c'était symbole de l'Église universelle, et une, elle veut dire c'est nous l'Église. Mais quant aux orthodoxes d'Orient, ils n'oseront plus utiliser le terme catholique, bien qu'ils soient de vrais catholiques, mais pas dans le même sens, parce que on ne peut être universel qu'en confessant la vraie foi. Ah. C'est les orthodoxes qui sont catholiques, selon le sens du premier millénaire, mais ils n'oseront plus utiliser le terme, et ils vont confondre l'orthodoxie avec les usages et les rites orientaux, ce qui n'est pas juste non plus. Voyez, les deux termes de catholique et orthodoxe vont être dénaturés. Mais dans l'Église du premier millénaire, catholique était un terme qui servait à désigner l'Église une, et orthodoxe, la vraie foi par rapport aux hérésies. Cette situation va durer jusqu'à la Première Guerre mondiale, 14-18. Tout va changer avec la révolution russe, mais surtout la révolution bolchévique. C'est la révolution bolchévique qui va tout changer en 1917, qui va avoir l'instauration d'un régime athée et violent en Russie, dans une grande partie du monde, et aussi, dans une moindre mesure, la guerre gréco-turque de 1922. Les Grecs vont perdre la guerre contre les Turcs en 1922. Ils vont être obligés de quitter leur pays, de quitter l'Asie mineure. Tous ces événements vont contraindre beaucoup d'orthodoxes à fuir leur pays et à venir en Europe occidentale, en Amérique du Nord. Pour les pays slaves et les Roumains, ce mouvement a duré jusqu'à la chute du communisme, 1989. Alors, voilà la grande nouveauté. Cette grande nouveauté vient de la Providence. Les orthodoxes découvrent en Occident la modernité. Ah, ils ne connaissaient pas. L'Occident était une explosion prodigieuse de technologie, d'idées politiques, de modernisme. Et les orientaux, dans ce qu'ils viennent en Occident, découvrent la modernité. La philosophie, on va dire, scientifique, on va dire, voyez, l'esthétisme, l'art, la musique, qui sont en dehors des villes. Et les Occidentaux redécouvrent les trésors de l'Église indivise. Les Occidentaux qui n'avaient pas d'autres horizons que ceux du monde catholique, romain et protestant, redécouvrent les trésors de l'Église indivise. Chacun était amené à réfléchir sur lui-même. On recommence enfin à avoir besoin de l'autre, au lieu de vivre plié sur soi-même et d'être centré sur soi-même. Beaucoup d'Occidentaux chrétiens vont retrouver, grâce à l'orthodoxie historique, nos racines chrétiennes. Beaucoup de gens qui en Occident étaient devenus plus ou moins athées vont redécouvrir les racines chrétiennes grâce à l'orthodoxie qui vient d'Orient. Et ils retrouvent le lien que l'Église indivise. Vous savez, moi, quand j'étais jeune, j'avais 20 ans, j'ai découvert l'orthodoxie, j'étais étudiant en Sorbonne. Mais l'Église indivise, on ne savait même pas que ce mot existait. On ne pouvait même pas imaginer, on ne savait pas. Et pourtant, nous étions des gens très pieux, très croyants, mais on ne faisait pas de théologie en Occident. On ne savait rien de la théologie trinitaire. Première fois, on a rencontré les orthodoxes, nous en parlait de la divine trinité. On était nuls. On ne savait rien. C'était réservé au clergé. On va découvrir la théologie trinitaire. C'est quand même fantastique. C'était un choc incroyable. Ça a bouleversé nos vies. Ça a changé complètement nos vies. Et quant aux orthodoxes, ça va les amener à réfléchir sur eux-mêmes, à se demander qu'est-ce que c'est l'orthodoxie. Ça va les amener à distinguer entre la foi orthodoxe et la culture orientale. Ça va les amener à réfléchir aussi sur leur mode de célébration, sur leurs usages. Ça va les amener à se renouveler. Parce que le fait d'avoir conservé la vraie foi n'empêche pas des décadences. Il y a énormément de décadences en Orient qui sont ridicules. Vous savez, personne n'a tout bien. On a tous des médiocrités, les orthodoxes et les non-orthodoxes. Et je veux mentionner quand même que ça va les amener à redécouvrir les rites anciens de l'Occident. Vous avez sûrement entendu parler de cette confrérie de Saint-Phocius qui existe à partir de 1925, c'est des jeunes intellectuels russes, autour d'un jeune homme qui s'appelle le Graf Kolinsky, et ils disent, mais pourquoi Dieu nous a envoyés en Occident? Qu'est-ce que c'est, orthodoxe? Ils se disent, mais ces pays, les chrétiens depuis 2000 ans, c'est pas des sauvages, ils sont chrétiens. Et ils vont commencer à étudier le rite romain, le rite des Gaules, tout ça. C'est assez extraordinaire. Ils entrent en eux-mêmes et ils se disent, mais qu'est-ce qu'il y avait avant? Et ça a été quelque chose d'extrêmement fécond. C'est ce mouvement des jeunes russes qui amènera à la création, en 1945, d'une église française qui pratiquera le rite des Gaules. Le rite des Gaules restauré qui a été béni par l'église russe, Serge Moscou, en 1936, béni par Saint Jean de San Francisco de Shanghai en 1961 et par Patriarcat Roumanien en 1972. C'est intéressant de voir, on opère la distinction entre les rites et les usages de la foi orthodoxe. Avec la consécration d'un évêque français en 1964 qui était d'origine russe, l'évêque Jean. Alors, je reviens à mon sujet. On va enfin pouvoir se rencontrer et non plus s'ignorer ou se haïr. On s'est haï pendant 1000 ans. On va se rencontrer, on va pouvoir se vérifier les uns les autres. Vous savez, lorsque l'autre n'est plus là, on ne peut plus se vérifier. Alors, indépendamment des problèmes d'orthodoxie ou hétérodoxie, des choses qui sont bonnes ou des choses qui sont moins bonnes, il y a dans le caractère de l'Occident et de l'Orient des aspects symboliques de l'être humain. C'est une évidence. Ces deux aspects symboliques de l'être humain. L'Orient représentant l'aspect intériorisé de l'être humain, qui est une quête d'éternité, et l'Occident représentant l'aspect extériorité de l'être humain qui conquiert. Le Seigneur dit à Adam et Ève, remplissez le monde, dominez-le. L'Occident n'a pas oublié ce commandement divin. Donc, on a besoin des deux. Vous avez vu, pendant 1000 ans, l'orthodoxie a gardé la foi, mais elle n'a pas bougé. Elle n'est pas du tout missionnaire. On se cache derrière les iconostases. Les Occidentaux n'ont pas gardé la vraie foi, mais ils ont essaimé dans le monde entier. Ils avaient de l'énergie. On a besoin des deux. Alors maintenant, je ne sais pas si je dois continuer parce qu'il est déjà 1h05. Je voulais rappeler les fondements de la foi orthodoxe. Tu crois?
Oui.
Est-ce que vous êtes encore courageux? Vous n'êtes pas accusé?
Il faut rester encore 10 minutes, oui. Oui.
C'est dur. Hein. Alors, non, je ne vais pas. Alors, non, je vais résumer.
Résumer, mais.
Je vais résumer. Oui. C'est dommage, mais je vais résumer. Je voulais faire ce parcours de 2000 ans pour montrer comment on est arrivé là. Pourquoi on est ensemble? On n'avait aucune raison d'être ensemble. Nous, on s'est resté des bons catholiques romains ou des protestants. Vous seriez resté votre petit monde oriental. Chacun resterait dans son coin. Le Seigneur n'a pas voulu. Il a donné un coup de pied, un formulaire. Il a dit, ça suffit. Maintenant, il faut que vous travaillez ensemble. Je veux refaire l'unité de l'Église. Ah. Alors maintenant, où je me situe, moi? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je coopère avec Dieu ou est-ce que je m'en fiche? Ah. Est-ce que j'amasse avec le Christ ou est-ce que je dilapide? Les fondements de la foi orthodoxe. Ils sont dogmatiques et ecclésiologiques. Qu'est-ce qui différencie une orthodoxe de quelqu'un qui ne veut pas? D'abord, la théologie trinitaire. C'est le trésor de l'orthodoxie. Il ne suffit pas de dire un seul Dieu en trois personnes. Mais il faut savoir quel est le contenu. Qu'est-ce que c'est ce seul Dieu? Une seule nature divine en trois hypostases. Oui, une seule nature divine. Mais les pères, dont Saint Grégoire à Palamas, nous ont amenés, derrière Grégoire de Nice bien sûr, hein, à distinguer entre l'essence divine, qui est tout à fait inconnaissable, parce que Dieu est incréé, et les énergies divines incréées. Les énergies divines incréées dans lesquelles Dieu crée et se communique, se donne à l'homme, librement. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, qui n'est uniquement orthodoxe. Et les personnes, les hypostases, chacune a un caractère que n'ont pas les autres. Sinon, il n'y a pas d'hypostase. Sinon, c'est une monade. Il n'y a pas de trinité. Chacun a un caractère hypostatique propre. Vous allez voir, on va revenir au fil du cul. Le Père est la source unique. source unique du Fils et de l'Esprit, source unique de tout ce qui est. Le Fils est engendré par le Père, avant tout le siècle. Le Fils s'incarne et le Fils révèle, montre Dieu, dit Dieu. C'est le Fils qui révèle les pensées du Père. Je suis la vérité, parce que quand on l'a vu, on a vu la vérité. Quand on a vu le Père. L'Esprit est inspiré par le Père. Il procède du Père seul. L'Esprit est la vie. Il donne la vie. En Christ, nous avons la structure et dans l'Esprit, nous avons la vie. Vous avez vu ? Prenez la Bible, premier chapitre. Le Fils façonne l'homme avec la glaise, c'est-à-dire à partir du cosmos, et l'Esprit souffle dans ses narines la vie. Mais vous avez remarqué que la vie n'est pas soumise à la structure, parce que les deux proviennent d'une seule source, le Père. Le Père, la source unique. Le filion qui est une erreur théologique. L'Esprit, la vie, ne procède pas du Père et du Fils. L'Esprit est libre, le Fils est libre. Le Père aussi est libre. Le Père donne tout. C'est ça la théologie trinitaire orthodoxe. C'est extrêmement important. C'est la clé de toute chose. C'est la clé de la vie. Si on ne croit pas à cela, on va mourir. La théologie trinitaire, c'est le cœur de l'orthodoxie. Vous avez vu que nous n'avons pas de pape. Le pape, c'est le Christ. C'est lui qui dirige l'Église. Il est la tête de l'Église. Mais qui c'est qui fait vivre l'Église ? L'Esprit. Mais j'ai vu que l'Esprit Saint ne prend pas la place du Fils. Il meut le corps d'Église. Mais la tête, c'est le Christ. Parce que c'est lui qui s'est incarné, que l'Église est son corps. Chaque personne divine respecte ce que fait l'autre. Et les trois personnes agissent conjointement. La théologie trinitaire, c'est le diamant d'orthodoxie. Le Christ, vrai Dieu, vrai homme, j'en parle pas, parce que vous savez tout. Marie, la Théotokos, je dis juste une chose, pour les orthodoxes, Marie est vraiment une fille d'Adam et Ève. Elle porte le péché originel, elle porte les stigmates. Mais nous disons que, selon sa volonté libre, ce que saint Maxime le Confesseur appelle la volonté gnomique, n'a jamais communié personnellement au péché. Il y a ce qu'on reçoit de ses parents, je reçois la nature de mes parents, puis il y a ce que je choisis d'être. Pourquoi on dit qu'elle est pure et immaculée ? Parce qu'elle n'a pas communié à ce péché. Voilà. Et donc, nous ne croyons pas dans le don de l'Immaculée Conception qui fait offrir Marie une femme à part. Si elle a été créée pure et immaculée, ben, on pourrait dire que le Seigneur peut le faire pour tout le monde. Allez. Non, ce n'est pas juste. Alors, un point sur lequel je veux insister, pour les orthodoxes, le but de la vie unique, c'est la déification, la théosis, l'union à Dieu. Il n'y a pas d'autre but. Le Dieu nous a donné l'image indélébile, même dans l'enfer, on regarde l'image de Dieu, et la ressemblance. La ressemblance, c'est l'aptitude à se comporter comme Dieu. Et l'homme, ainsi, peut parvenir à la déification. C'est l'unique but de la vie, la théosis. Notre but n'est absolument pas d'organiser un royaume de ce monde, ni que tout aille bien, ni que les gens... On s'en fiche. C'est l'union à Dieu. Unique, c'est notre unique but. Communier à Dieu et vivre en Dieu. La synergie, c'est très important. Il faut absolument que je dise un mot, la grâce. La grâce, qui est une énergie divine à créer, est indispensable au salut de l'homme. Sans elle, l'homme ne peut rien faire. Mais la grâce ne peut rien faire sans la volonté libre de l'homme. C'est ce que les orthodoxes appellent la synergie, l'union libre de volonté. Marie ne pouvait rien sans la grâce, mais la grâce ne pouvait rien sans sa volonté libre. Quand l'archange Gabriel est apparu, elle a dit oui, mais tu n'es pas obligé. Union libre de volonté. Le monde occidental du deuxième millénaire a totalement bien la synergie. C'est un monde complètement augustinien. Il y a Dieu, Dieu, Dieu. La grâce, la grâce, la grâce. Il n'y a rien d'autre. Les protestants au XVIe siècle, ils ont dit, ça suffit. Et l'homme. C'est l'orthodoxie, vous avez vu, elle dit, il y a la grâce et la liberté de l'homme. C'est ce que nous appelons la synergie. C'est extrêmement important. Alors, ça se voit au plan liturgique dans un élément que vous avez pu voir tout à l'heure, dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'épiclèse. Ce n'est pas simplement le fait que le prêtre dise les paroles de l'institution qui font que, crac, pof, magiquement, ça devient le corps du Christ. Il dit, il offre, il supplie le Père. Père, envoie l'Esprit qu'il transforme les dons. Sur nous, sur les dons.
seuls les dieux peuvent communier à Dieu, qu'ils nous. C'est l'esprit qui transcende les dons, ce qu'on appelle l'épiclèse.
Très important. Et le Saint-Esprit n'est pas obligé de descendre.
C'est la liberté. Liberté de Dieu, liberté de l'homme. Le prêtre supplie. Si un prêtre dans son cœur est impie, l'esprit ne descend pas. Et si le peuple s'en fout, l'esprit ne descend pas. Volonté libre de l'homme, volonté libre de Dieu, union libre de volonté.
Ça, c'est un trésor de l'orthodoxie, qui est complètement ignoré dans le reste du monde. Les fins dernières, je veux quand même dire un tout petit mot des fins dernières, puis le reste, j'imprécherai. Les fins dernières. La scolastique a établi toute une construction intellectuelle, arbitraire, complètement rationnelle, juridique, un système juridique. Paradis, enfer, purgatoire. Vous êtes un bon, tchac. Un mauvais tchac, pour puis en milieu, bon, il y a un truc de rattrapage, mais il va falloir payer. Ça n'a aucun rapport avec la révélation de l'Évangile, ça n'a absolument aucun rapport. Après la mort, c'est la première mort, c'est la dissociation de l'âme et du corps, première mort que le Christ a connue, grâce à laquelle nous a sauvés. Le corps va retomber en poussière dans l'attente de la résurrection, et l'âme fait un chemin spirituel céleste. Chaque âme demeure la même personne que sur terre, mais sans son corps. Et au bout de 40 jours de préparation, elle va passer devant le Christ, elle a son jugement personnel, qui est différent du jugement universel qui concerne la totalité de l'humanité. Et après, l'âme peut s'élever vers le trône de Dieu, en traversant progressivement les cercles angéliques, qui correspondent à des états spirituels, mais aussi l'âme peut stagner, c'est des fantômes. Le Christ en parle dans l'Évangile, il dit « je ne suis pas un fantôme », c'est « je ne suis pas une apparence d'être humain ». L'âme garde la mémoire du corps. Donc l'âme peut stagner, elle peut chuter dans l'abîme. L'âme peut ne pas se repentir. L'âme peut dire non, même mort. Vous avez entendu la parabole du mauvais riche, et du juste Lazare, et du pauvre Lazare. C'est très intéressant, le Christ nous parle des fins dernières. Le mauvais riche, il est mort, il n'a que son âme, il n'a plus son corps. Vous avez vu? Il ne se repent pas. Il dit, Abraham, dis à Lazare de venir me mettre un peu d'eau sur la langue. Il dit, c'est un larbin, Lazare. Il ne dit pas, Seigneur, je me repens d'avoir été un salaud avec Lazare. Il ne demande pas pardon à Lazare. C'est ça l'enfer, c'est ne pas se repentir. On est libre. Mais l'enfer éternel, ce n'est pas le choix divin, ce n'est pas Dieu qui a dit, ils sont mauvais, ils sont fichus pour toujours. C'est, je peux éternellement ne pas aimer Dieu. Dieu ne me contraindra jamais. Et d'ailleurs, nous avons des magnifiques, magnifiques développements théologiques orthodoxes. Bon, de Saint Ephrem le Syrien au IVe siècle, magnifique, mais de Saint Siloine de Latin au XXe siècle, il est mort en 1938. Siloine qui était plongé pendant 20 ans dans l'enfer éternel. Et le Seigneur lui dit, je suis aussi là. Ne désespère pas. L'enfer, c'est désespéré. Donc, on peut changer, même dans l'enfer. Vous voyez, donc, ça n'a aucun rapport avec la vision scolastique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le sacrement, je vais laisser tomber. Le mariage, je laisse tomber. L'ecclésiologie orthodoxe, au fond, vous savez tous ce que c'est. Tous les évêques sont égaux. Il n'y a pas de grand ni de petit évêque dans les orthodoxes. Un patriarche n'a pas plus de pouvoir qu'un autre évêque. Mais selon la 34e règle apostolique et celle de l'orthodoxie depuis 2000 ans, les égaux se choisissent un premier, et le premier préside. Mais c'est lui qui préside, il ne décide pas. C'est ça l'organisation de l'Église orthodoxe. Le seul chef de l'Église est le Christ. Les différentes églises sont des églises locales qui sont en communion mutuelle, mais qui s'administrent librement, et quand il y a un problème, on réunit un concile. Alors, c'est vrai qu'il y a une grande difficulté de l'orthodoxie. Les églises patriarcales, on va dire, ont une vie conciliaire, bien sûr. Mais il n'y a pas de vie conciliaire universelle. Ça, c'est une déficience de l'orthodoxie. Nous n'avons rien. Depuis 1000 ans, nous n'avons rien. On n'ose pas changer une virgule. On est incapable. Parce qu'on manque d'audace, on manque d'énergie. Excusez-moi de dire ça, mais il manque ma sœur occidentale. Il y a de l'énergie. Quand les catholiques romains veulent réunir un concile, pof, en 10 ans, ils le font. Et nous, concile commencé en 1925. Vous vous rendez compte? Le grand concile pan-orthodoxe. On a envie de rire. On est en 2011. Le monde a changé depuis 1925. Hein, bon. Alors,
le mariage, vous savez bien qu'on a toujours gardé la règle d'avoir un clergé marié et un clergé continent. Hélas, nous n'avons plus d'évêques mariés depuis 692, depuis le début du 8e siècle. Je pense que c'est une erreur. C'est pas bien. Mais on a toujours un clergé marié. Et en matière de baptême, vous savez bien qu'on baptise toujours par triple immersion et on donne en même temps le baptême, la chrismation et la communion, même au bébé, l'exercice aux anges le fait depuis 2000 ans. Et en matière de mariage, nous ne sommes pas absolus. On estime qu'on peut aussi faire des erreurs. En vertu du pouvoir de lier, délier, un évêque peut délier quelqu'un d'un lien conjugal. On ne condamne pas les gens à être malheureux toute leur vie. C'est ridicule. Le mariage est magnifique, mais il n'est pas éternel. Le mariage éternel, c'est un mariage entre Dieu et l'homme. Ce n'est pas le mariage entre M. Dupont et Mme Durand. Hein. C'est sur la terre. Le Christ enseignait là-dessus. Alors maintenant, je termine.
Allez, je vais... Mais, bon, ça c'est clair que ça sera pour une prochaine fois, ça c'est sûr qu'on va vous inviter.
Alors, maintenant, non mais toutes ces choses, vous le savez. Mais c'est vrai, bon, juste aimer les détailler. Que fait-on maintenant? Alors, vous, quand je dis vous, c'est les chrétiens d'Orient. Vous, les orthodoxes venus de l'Orient. C'est Dieu qui vous a conduit en Occident. De même que c'est lui qui nous a amenés, qui nous a permis, nous, les occidentaux, de retrouver la foi de nos pères. Moi, je ne savais même pas que ça existait. Je ne pouvais même pas penser que ça n'a pu exister. Vous vous rendez compte? C'est Dieu qui a choisi ça, c'est pas nous. Chacun de nous doit prendre la mesure du don de Dieu. Essayer de comprendre le sens profond de cette histoire, c'est-à-dire le dessein de la providence. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qu'il veut pour l'avenir de l'humanité? Ça, chacun de nous doit se demander, pas rester dans son petit coin. Nous, les chrétiens d'Occident, nous avons dû nous mettre à l'écoute des orthodoxes venus d'Orient. On a dû se mettre à l'écoute. On ne savait pas ces choses-là, qui ont conservé le précieux dépôt de la foi, parfois même sans en avoir conscience. Je me souviens d'être allé en Grèce, j'ai vu que les gens ne connaissaient pas la théologie, mais ils ont gardé quand même le précieux dépôt. Et pouvoir retrouver nos racines chrétiennes. Vous savez, quand je vais à Lyon, moi je vénérais Saint-Irénée, je vais à Toulouse, je vénérais Saint-Cernin. C'est les racines chrétiennes de l'Occident. Mais pour une partie d'entre nous, je ne dis pas tous, nous voudrions bien que cette foi puisse s'exprimer dans des rites occidentaux. C'est mon cas. Moi, je célébrais les rites des Gaules restaurés pendant 15-20 ans. J'ai beaucoup aimé. Quand les évêques orthodoxes ici, ils ont dit non, je trouvais que ce n'était pas juste. J'ai dit, ils font une faute pastorale. Parce que c'est un rite orthodoxe. Et moi, je suis occidental. On a bien le droit de prier dans des formes occidentales. Voyez? Alors, que des Français veuillent prier autrement, ils ont le droit, mais qu'on ait la liberté. Et vous, les chrétiens orthodoxes venus d'Orient, vous apprenez de l'Occident la modernité, la civilisation occidentale qui a conquis le monde, avec les bonnes et les mauvaises choses, quand même, elle a conquis le monde. Dieu vous a contraint de sortir de votre ghetto culturel, de déterrer votre talent. C'est pas ma petite orthodoxie derrière mon iconostase. Et de vous préoccuper du reste du monde. Vous avez vu comme si les orthodoxes se fichaient perdument de ce qui se passe dans le monde. Il y a un événement important en France, les juifs s'expriment, les musulmans s'expriment, les catholiques comment s'expriment. Où sont les orthodoxes sur la table? On ne les a pas vus. On n'est pas encore. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? On ne sait pas. C'est terrible. Incroyable quand même. Mais les premiers chrétiens n'étaient pas comme ça, ils parlaient. Ils disaient à l'empereur, tu te trompes. Ils étaient pas trouillards. Il faut sortir du ghetto, déterrer votre talent, et vous préoccupez de l'avenir du monde. Préoccupez-vous de l'avenir du monde, pas seulement de vos petites affaires, pas seulement de vos petits usages en matière de jeûne et tout ça, les canons, mais l'avenir du monde, quel est le destin du monde? Et ça doit vous amener à distinguer entre les fondements de la foi orthodoxe, qui sont universels, c'est-à-dire catholiques, et les rites orientaux. Les canons, les usages qui sont relatifs, locaux, qui peuvent évoluer. D'ailleurs, ça ne devrait pas être figé. Vous avez vu, on n'ose rien changer. Moi, je vois, on a des bouquins sur le rite byzantin, il y a plein d'erreurs. Il ne faut pas changer de virgule. On n'ose pas. Bon, on n'a pas fait de concile. On n'ose pas. On n'ose rien faire. Le contact avec l'Occident constitue pour vous une certaine vérification. Quand les jeunes Russes sont venus en Occident, ils ont étudié les rites occidentaux. Ils ont étudié l'histoire de la liturgie. c'était tous des liturgistes catholiques romains, c'était les plus grands savants. Ils ont changé la façon de célébrer les mystères. Et maintenant, il n'y a plus aucune paroisse en Europe occidentale qui ne doive à ces jeunes Russes. On n'osait jamais célébrer une liturgie le soir, on n'allait jamais communier. Les rites, la cèse était terrible, les jeûnes. Tout a changé. Et grâce à ces jeunes Russes, ils ont dit, il faut changer. Le peuple qui participe à la liturgie, on a changé. On a changé le monde de cette façon. Toujours se renouveler. Alors, si vous voulez reconstituer en Occident des petits morceaux de Roumanie ou de Grèce, de Russie, de Serbie, rien ne pourra changer. L'Église a pour vocation de s'occuper du salut de tous les hommes et non de promouvoir un modèle culturel. La culture, un des plus grands dangers pour la vie spirituelle. Si nous voulons retrouver l'unité de l'Église, mais c'est impératif, c'est un péché qu'on soit désunis. On n'a pas le droit de dire, bon, on est tranquille dans notre coin, je suis outré de voir des orthodoxes qui disent, oh ben c'est comme ça, on s'en fout. Mais c'est pas vrai, on ne s'en fout pas, on ne se fout pas des occidentaux, on ne se fiche pas des catholiques romains ni des protestants, c'est le peuple de Dieu. On n'a pas le droit de dire on s'en fiche. On doit retrouver l'unité de l'Église. Le Christ, il n'a qu'un seul corps, il n'a pas trop quatre. C'est un péché. Il faudra que chacun, chaque peuple, chaque culture, trouve sa place dans l'Église. L'Église est une, chaque peuple, chaque culture, chaque personne doit trouver sa place. Il faut donc relativiser tout ce qui n'est pas d'ordre théologique et spirituel.
Donc, je vous propose de ne pas continuer avec les questions. De ne pas continuer avec les questions parce que c'est assez tard.
On va déjà boire.
On va démarrer la GAP et peut-être pendant la GAP, vous pourrez aborder Père Noël Tanazar pour.
Je propose deux sujets. Une bien l'histoire de l'Église. Notre premier repas chrétien, la Oliva. Quand est-ce qu'il a commencé, comment c'était fait?
Je vais vous dire.
Je le sais. Et vous allez dire un autre quand vous allez revenir de nouveau. Et quel était notre rôle réellement? Parce qu'on s'est battu à mort avec les Turcs. Et on n'était pas à la traîne des Russes.
Ah, c'est bien. Je dis juste un mot. J'ai un mot. Hein? Alors, les Roumains ont eu un rôle tout à fait extraordinaire dans toute cette histoire dont je vous ai parlé. Et moi, je vais vous dire que j'ai beaucoup de reconnaissance à l'égard de l'Église de Roumanie. Elle a quelque chose d'extraordinaire. Elle est la seule Église latine en Orient orthodoxe.